Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal présenté par Billy Van Lutumba.
Goma à nouveau éclairé après une nuit et une bonne partie de la journée de ce mardi dans l'obscurité. La calmie sous le théâtre des combats a permis une réparation minimale du système d'approvisionnement de l'électricité dans la ville. Vous en saurez plus tout de suite en ouverture de ce journal. Vous aurez aussi assez de détails sur le naufrage d'un convoi de pirogues motorisées survenu la nuit de samedi à dimanche dernier à Bumba dans la province de la Mongala. Une dizaine d'écorces sont jusque-là repêchés et il est aussi fait état de plusieurs disparus et rescapés. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo, est l'invité de ce journal. Il donne quelques avancées déjà accomplies pour la tenue des élections en décembre. Pour lui, rien ne présage la non-organisation du scrutin de décembre. Auditeurs de Radio Capi, merci de votre choix à vous informer sur cette fréquence. Nous vous en souhaitons excellentes conditions d'écoute et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir. La société Virunga Énergie annonce le rétablissement de l'électricité dans la ville de Goma en fin d'après-midi de ce mardi. Une équipe des techniciens a fait une descente courageuse sur les lieux et a réussi à réparer de manière temporaire l'une des deux lignes endommagées lors des affrontements hier, dit la direction générale de Virunga Énergie. Le chargé de communication de l'ICCN indique que cette équipe a profité de l'accalmie relative qui s'est observée sur la ligne des fronts vers Kibumba pour accéder dans cette zone. C'est pour limiter l'impact humanitaire de cette coupure, déclare-t-il. Virunga Énergie parle des réparations fragiles. La solution définitive nécessite de réparer les deux lignes. Bienvenue Bouende explique dans quelles conditions intervient ce rétablissement. Il est au micro de Denis Lucas.
La bonne nouvelle, c'est que nous avons réussi le rétablissement de l'électricité l'après-midi de ce mardi, après justement un incident majeur sur notre réseau qui a plongé une bonne partie de la ville de Goma dans le noir dans la soirée d'hier. Donc nos équipes ont profité de l'accalmie qu'il y a eu aujourd'hui pour se déployer sur le terrain. Et Dieu merci, elles ont réussi à rétablir l'électricité, mais cela de manière temporaire. Il faut noter que les travaux continuent malgré ces rétablissements, car les dégâts sur la ligne sont considérables. On peut donc observer de temps en temps des coupures d'électricité. L'idéal pour nous, c'est d'arriver à réparer toutes les deux lignes qui alimentent la ville de Goma, car le risque d'incident reste très élevé tant que la sécurité n'est pas complètement rétablie dans la zone.
Nord-Kivu, toujours une accalmie précaire est observée depuis ce mardi matin dans les zones de combat qui opposent les groupes armés locaux et les FRDC contre les rebelles du M23, notamment sur l'axe Kibumba et dans le Masisi. Pendant ce temps, le chef d'état-major général des FRDC est arrivé hier soir dans la ville de Goma en mission d'inspection, selon le service de communication de l'armée. Le général d'armée Chiwewe Songesa, Christian, est arrivé à la tête d'une forte délégation de l'armée, alors que des combats ont repris depuis octobre à la suite de la violation du cessez-le-feu par les belligérants. Aucune communication officielle n'a encore été faite par ce haut responsable de l'armée. Sur le terrain, une accalmie précaire s'observe depuis ce matin dans la région de Kibumba et Nyiragongo. Dans la même province, en territoire de Nyiragongo, au moins 15 personnes, des habitants des villages Kibati, Kiziba et Muja, auraient été tués par des rebelles du M23 dans le parc des Virunga il y a de cela quelques jours. D'après la société civile de Nyiragongo qui livre cette information, c'est un rescapé de ces tueries qui est arrivé hier après avoir échappé aux mains des assaillants qui a alerté la communauté. Mambo Kawaya, président de la société civile, appelle la population de Nyiragongo à suspendre toute fréquentation du parc sous aucun prétexte. Cette zone incontrôlée est désormais très risqué. Mais l'équipe Elamondo nous fait le point.
D'après la société civile, les victimes sont entre autres des vendeurs qui ont l'habitude d'aller chercher des sacs de braise, des vivres tels que des pommes de terre et d'autres vont cultiver dans la région du parc, notamment vers Cheyeru, une zone occupée par les rebelles. Elle ajoute que le rescapé lui-même est blessé. Ces tueries font partie du quotidien, dénonce Mambo Kawaya. Selon lui, au moins 25 autres personnes ont été tuées et leurs corps découverts plus tard en état de décomposition avancée, toujours dans les parcs de Virunga, il y a de cela 2 semaines environ. Mambo Kawaya appelle la population de Nyiragongo à ne plus fréquenter les parcs, quelle qu'en soit la raison, afin de se mettre à l'abri de ces massacres.
Nous venons de l'apprendre, le naufrage d'un convoi de pirogues motorisé dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Bumba, dans la province de la Mongala. Déjà, 17 corps ont été repêchés parmi les passagers qui étaient à bord. Il y a aussi plusieurs disparus et rescapés. Récit de notre correspondant régional Paul Richard Malingla.
Les témoins joints au téléphone affirment que c'est la nuit de samedi à dimanche que le convoi venait de quitter le marché Bowe-Labomengue. À une faible distance de la berge, le moteur s'est arrêté, l'hélice a été bloquée par le filet de pêche en pleine rivière. Ainsi, le convoi a commencé à tanguer. Poussé sous l'effet du courant d'eau, l'embarcation va violemment heurter, puis couler sous un bateau qui était accosté loin au port de Bokata. Dans l'obscurité, il y a eu des bandades. Le bilan humain provisoire est de 17 corps repêchés, 25 rescapés et plus de 70 disparus, indiquent nos sources. Des témoins ajoutent que le convoi qui rentrait à Bumba était bondé de plus de 100 passagers. Parmi eux, des commerçants qui venaient du marché de Bowe-Labomengue dans le secteur du Timbiri, sur la rivière du même nom, à environ 80 km à l'est de Bumba Centre. Il y avait aussi plusieurs fidèles d'une église qui se rendaient à une cérémonie religieuse. Pendant ce temps, aucune intervention ou déclaration de autorités locales que nous avons difficile à joindre. Bondaka pour Chamalingue, la Radio Okapi.
Dans le Kwilu, le mouvement citoyen dénommé Pona Congo a organisé lundi 6 novembre un sit-in devant l'hôtel de ville de Kikwit pour fustiger la montée de la criminalité dans cette ville. Selon les membres de cette structure citoyenne, il ne se passe pas un mois sans assassinat à Kikwit. Le tout dernier cas est celui d'un étudiant abattu par des inciviques de la semaine dernière juste après la collation des gardes académiques. Ces manifestants ont brandi des affiches calico sous lesquelles on pouvait lire « Trop c'est trop avec l'insécurité à Kikwit, nous voulons la paix et la sécurité, justice pour l'étudiant Zandou Chora ». Ils demandent des enquêtes approfondies pour arrêter les auteurs de ces actes de barbarie. On écoute tour à tour les militants du mouvement citoyen pour le Congo au micro de Irène Bouma.
Nous sommes venus présenter notre ras-le-bol au maire de Kikwit face à l'insécurité grandissante qu'on est en train de vivre dans la ville depuis un certain moment parce qu'il y a des tueries par-ci par-là. Des actes de barbarie qui sont perpétrés par le jeune communément appelé C de base. Le dernier en date d'ailleurs de la semaine passée où un étudiant qui revenait de sa collation de grade a été lâchement tué au niveau de la carrière par le jeune Jean qui portait de machette. Alors face à cette insécurité grandissante, nous avons pris la résolution en tant que citoyens congolais de pouvoir rencontrer le maire de la ville et lui présenter notre mécontentement pour qu'il puisse trouver solution face à cette situation désastreuse. Voyez déjà que la période de la campagne s'approche, mais nous posons la question, comment est-ce que les différents candidats vont devoir battre leur campagne tant qu'il n'y a pas la sécurité?
Ça fait un bon bout de temps qu'il y a des menaces, qu'il y a des tracasseries, qu'il y a des tueries dans nos quartiers. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement impossible de se promener pendant la nuit. Quand il est 18h, c'est impossible de sortir. Ce qui nous touche plus profondément, c'est l'indifférence des autorités locales. C'est ainsi que nous sommes venus ici pour rencontrer le maire de la ville.
Signalons que ces activistes n'ont malheureusement pas rencontré le maire de la ville qui était absent de son bureau. Fin le week-end dernier à Lubumbashi de la formation des 20 femmes candidates aux élections municipales de 4 provinces. Il s'agit des provinces du Kasaï oriental, Lomami, Okatanga et Lualaba. Cette formation a été organisée par l'ONG Democracy Reporting International avec l'appui financier de l'Agence allemande de la coopération internationale GIZ. 10 femmes du Kasaï oriental et de Lomami sont rentrées ce lundi en Bujimai. D'après Gertrude Ndaya, formatrice, le but de ces assises est de permettre aux femmes candidates d'être encadrées avant, pendant la campagne électorale et après les élections par d'autres femmes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe choisies comme mentors par les organisateurs de ces travaux. Gertrude Ndaya s'exprime au micro d'Esther Dalafina.
Elles ont reçu d'abord une première formation théorique à Mbujimai. Ensuite, nous sommes allés à Lubumbashi. En troisième position, nous avons regroupé les femmes qui avaient été formées à Mbujimai, 10, et 10 autres qui avaient été formées à Lubumbashi. Elles ont dû bénéficier de l'expérience d'autres femmes, congolaises pour la plupart, qui venaient d'ailleurs. Mais il y a eu aussi les échanges d'expériences avec des femmes européennes et des femmes de l'Afrique de l'Ouest, qui sont également dans les institutions locales. À cette occasion, nous avons pu donner à chaque femme candidate congolaise une mentor. Les mentors doivent accompagner les femmes candidates. D'abord, elles ont commencé par partager l'expérience, ensuite élaborer leur plan stratégique de campagne. Elles ont fait un programme d'accompagnement tout le long du processus. Elles ont été aussi capacitées dans la levée de fonds. Toutes les mentors n'ont pas pu venir à Lubumbashi. Elles ont eu les contacts avec leurs mentorés par vidéoconférence.
Évasion signalée hier à la prison de Lubero au centre aux alentours des 21h locales. Des sources sécuritaires affirment que les détenus se sont servis d'un burin et d'un marteau pour trouer le mur de leur cellule et accéder à la cour de la prison. D'après la même source, ils ont ensuite utilisé des draps pour couvrir les fils barbelés afin de pouvoir escalader le mur et s'enfuir. Cette opération s'est passée à l'insu des trois policiers commis à la garde de cette maison carcérale. Ces derniers viennent d'être interpellés par l'auditorat militaire de Boutembo qui vient d'ouvrir une enquête. L'administrateur du territoire indique que trois des détenus évadés étaient condamnés pour vol à main armée. Le colonel Alain Kiwewa affirme qu'une perquisition de la prison est nécessaire pour prévenir une nouvelle évasion. Justicia Esbele Lazado tire la sonnette d'alarme sur la santé de Salomon Idi Kalonda qui se dégrade de plus en plus. Ces deux ONG de défense des droits de l'homme l'ont fait savoir ce lundi à Lubumbashi au cours d'une conférence de presse. Pour Jean-Claude Katende de Lazado, il importe qu'il aille se faire soigner et qu'il revienne répondre à la justice sur des faits qui lui sont reprochés. On écoute Jean-Claude Katende au micro de Jean Gandou.
Étant à Lubumbashi, il était de mon devoir, surtout que M. Idi Kalonda est très connu ici, d'informer non seulement l'opinion nationale, mais aussi l'opinion provinciale. Qu'on puisse savoir qu'un des notables de cette province est détenu de manière injuste à Kinshasa et que ma présence ici permet à ce que nous puissions prendre cette position, d'autant plus qu'il y a quelques semaines à Kinshasa, nous avions déjà pris position ensemble avec Justice AS Bell pour dénoncer les injustices dont M. Kalonda est victime aujourd'hui. Et nous pensons que dans la situation actuelle, ce qu'il est important de faire de la part de la justice, parce que c'est une justice qui est au service de tous les citoyens, c'est de pouvoir permettre à ce que M. Idi Kalonda aille se faire soigner dans un endroit qui permet à ce qu'il soit pris en charge conséquemment et qu'après ces soins, qu'il revienne rendre des comptes à la justice, mais surtout une justice indépendante qui n'est pas manipulée par les hommes politiques ou par d'autres couches de la population congolaise.
Avant de passer à la page internationale, examen hier lundi des deux projets de loi dont celui portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que celui relatif au statut des agents de carrière de services publics de l'État. Dans la présentation de l'économie des ces deux textes de loi, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a noté que le premier texte vise à garantir un fonctionnement plus harmonieux entre les services publics à différents niveaux de l'État, alors que le second apporte des incitations au changement ainsi que le fonctionnement efficace des services publics. Les détails avec vous, Michel Kifinda.
Au cours du débat, le député Daniel Mbao pose un problème de déconcentration. Lucien Kasongo estime pour sa part que la loi devrait être accompagnée de mesures d'application. Pour Jacques Joly, cette réforme devrait mettre fin à la tribalisation de l'administration publique.
Il y a des problèmes réels. Par exemple, les suspensions des secrétaires généraux par des ministres sectoriels. Il y a la question de la coordination des services publics centraux au niveau de la province par le gouverneur. Les chefs des divisions, les directeurs de l'administration publique de l'État sont affectés sur base tribale. Alors que la clé de fonctionnement de l'administration publique, c'est le principe de la neutralité, de l'apolitisme, de l'égalité et autres.
À l'issue de ces débats fort fournis, le vice-premier ministre a rencontré les préoccupations soulevées par la plénière. Jean-Pierre Liaou.
Il faut surtout renforcer la sanction. Il faut surtout redéfinir les règles à ce qui concerne les recrutements. Une autre innovation, c'est nous avons une fonction publique qui est carriériste. Donc on y entre pour toute la vie. Maintenant, on veut moderniser les choses, d'innover avec de fonctionnaires contractuels.
Au finish, l'Assemblée nationale déclare les deux projets de loi recevables et les envoie à la commission PAJ pour un examen approfondi pendant 48 heures.
Actualité internationale.
Le ministre ukrainien des Affaires étrangères était en déplacement en Afrique du Sud. Dmitry Kouleba a déclaré qu'il cherchait à porter la coopération avec l'Afrique du Sud à un niveau qualitativement nouveau. Près de 5 mois après la mission de paix en Ukraine et Russie conduite par une délégation des chefs d'État africains dont Cyril Ramaphosa et alors que l'Afrique du Sud a été critiquée pour ses liens avec Moscou, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmitry Kouleba était en visite à Pretoria. Reçu par son homologue Naledi Pandor, il est à nouveau venu plaider pour un renforcement de la coopération entre le continent africain et son pays. Le régime militaire issu d'un coup d'État au Niger a demandé lundi au Togo de jouer les médiateurs dans ses négociations avec la communauté internationale, notamment avec les pays ouest-africains qui l'ont sanctionné l'été dernier. Le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Mobi, s'est entretenu dans la journée avec le président togolais Fornia Simbé dans la capitale togolaise Lomé. Après le coup d'État du 26 juillet, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a imposé des strictes sanctions financières au Niger pour pousser les militaires qui avaient renversé le président élu Mohamed Bazoum a restauré l'ordre constitutionnel.
L'invité.
La tenue des élections le 20 décembre prochain s'avère irréversible. C'est ce qu'a affirmé à Radio Okapi le rapporteur adjoint de la CENI. Paul Moindo salue les avancées dans la formation des formateurs électoraux, mais aussi dans l'acquisition du matériel électoral. Au cours de la clôture du niveau 2 de la formation en cascade des formateurs du personnel de la CENI, le rapporteur adjoint de la CENI annonce la formation avant les élections des plus de 349 000 agents électoraux avant le 20 décembre. Moindo Vauma répond aux questions de Michel Kifindangoy.
Monsieur le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moindo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de clôturer la deuxième session des formations en cascade. Dans 10 jours, c'est le début de la campagne électorale. Vous pensez qu'il y aura suffisamment de temps pour que ces formateurs des formateurs puissent aussi à leur tour former les autres agents des bureaux de vote?
Tout est bien chronométré. Et comme vous le savez, vous venez même de le constater, aujourd'hui nous sommes le 6. Il était prévu que nous puissions clôturer le 6 aujourd'hui. Nous avons respecté notre date. Et là, nous sommes dans les chefs-lieux des provinces. Et après ici, dans les 5 jours qui suivent, cette formation va se dérouler dans les antennes. Donc là, c'est dans tous les territoires de notre pays. Pour nous, le temps est respecté. Notre calendrier est scrupuleusement respecté. Et au jour de l'élection, tout sera en ordre.
Est-ce que vous avez aussi suffisamment avancé au niveau de l'acquisition des kits électoraux, des machines à voter? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Je pense que hier, vous l'avez constaté, on a réceptionné les urnes. Il n'y a pas longtemps, vous aviez vu vous-même comment on était en train de réceptionner les kits que nous appelons actuellement DEV, ça veut dire les dispositifs électroniques de vote. À l'heure où je vous parle, nos entrepôts sont totalement plein de matériel et nous sommes donc à plein déploiement. Et donc c'est pour vous dire que non simplement sur le plan humain, nous formons nos agents, mais sur le plan logistique, également le travail s'est poursuivi sans désemparer. Il y a également des matériels que nous devions recevoir de l'étranger. Nous avons des ponts aériens qui se font au moins chaque semaine.
Et la RDC, un pays à la dimension d'un continent, mais avec un déficit criant en infrastructure. Structure routière notamment, comment comptez-vous vous y prendre pour acheminer tous ces matériels dans tous les recoins du pays?
Bien sûr, cela fait partie de nos défis. Nous avons un défi important qui est le défi infrastructurel, nous avons le défi sécuritaire, mais chaque institution, pour atteindre ses objectifs, doit se mesurer devant ces défis-là. Et la CENI a toujours été à la hauteur, n'est-ce pas, de ses tâches. Et elle finit par remplir sa mission. Et vous l'avez constaté, l'enrôlement, nous l'avons fait. On avait déployé les kits d'enrôlement sans problème. Et nous avions également fini la cartographie sans problème avec les mêmes infrastructures. Nous sommes convaincus, avec toute l'expérience que nous avons, nous allons faire avec et les élections vont avoir lieu.
Avez-vous l'intention de recourir notamment aux moyens logistiques de la MONUSCO?
Vous savez, l'enrôlement dans certaines zones avait bénéficié d'un appui logistique de la MONUSCO. Et donc, nous pensons que leurs équipements pourront bien sûr nous aider. Mais déjà, le gouvernement nous donne beaucoup, en fait, nous finance, nous appuie et pour que nous ne puissions pas être en retard. Mais tous les autres appuis des partenaires, nous sommes ouverts pour pouvoir les recevoir.
Est-ce que vous allez utiliser aussi les matériels de 2011 ou 2018?
En fait, nous allons surtout utiliser les matériels du cycle passé parce que, vous savez, c'est la fait partie du patrimoine de la CENI. Voilà pourquoi nous avons tenu compte déjà du matériel existant que nous sommes en train d'actualiser, ou avec des termes techniques, il y a des équipes sur terrain qui travaillent pour essayer de voir ce qui ne va pas, modifier ou changer ce qu'il faut changer. Mais nous allons beaucoup utiliser ce matériel-là. Bien sûr, il y a des nouveaux matériels que nous avons également acquis parce qu'il fallait, par exemple, changer le logiciel. Sur base d'un état des lieux que nous avions fait, nous avions répertorié tous ces cas, les commandes avaient été effectuées et là, nous sommes à l'étape de réception de tous ces matériels manga.
La toute dernière question, quel message adressez-vous surtout aux sceptiques, ceux qui ne croient pas encore à la tenue effective des élections le 20 décembre prochain?
Ils doivent comprendre que la CENI est totalement engagée à donner à la République un processus transparent, crédible, apaisé et dont le résultat devrait être accepté par tous. On essaye de tout faire pour y arriver, mais le gouvernement a été vraiment alerté pour que les moyens nous soient davantage donnés, parce que à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas droit d'avoir des retards de paiement. Tout doit nous être donné à temps, parce que chaque minute de retard a un impact très significatif sur le plan financier, logistique, et ça peut avoir des impacts incalculables.
Paul Moindo, je vous remercie.
Merci également.